Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est Sophie, très contente de vous retrouver en ce splendide mercredi, malgré le fait que, bon, les mauvaises nouvelles arrêtent pas de nous tomber dessus, mais c'est pas grave, c'est mercredi, et c'est donc la journée de Jean Héroldi. Bonjour Jean.
Comment ça va Sophie?
Ben écoute, déprimé évidemment par tout ce qui se passe, surtout quand je vois des joueurs économiques importants qui tombent les uns après les autres. Dans le domaine de la mode, ben c'est la fin pour la chaîne de magasins Le Château. Ça a été quand même emblématique, Le Château, là, pendant des années.
Pour les jeunes de notre âge, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était la première boutique où tu voulais t'acheter quelque chose pour être différent.
Absolument.
À l'époque, c'était un magasin qui était très, très fashion. Tu sais, les années 80, c'était les couleurs fluo, c'était les pantalons, les premiers pantalons en simili-cuir.
Oui.
Tout ce qui était très, très fashion. Ça a changé, par contre, par la suite.
Mais, tu vois, moi, je me rappelle, quand tu commençais à ne plus porter les vêtements que tes parents t'achetaient, quand c'était plus « Maman m'habille », ben, c'était « Le Château m'habille ». C'était vraiment ça, là. C'était, ça a été vraiment une sorte de d'émancipation pour bien des jeunes, là.
Oui, c'est triste. C'est vraiment triste. Surtout que, tu sais, habituellement, Destination, t'as l'habitude d'entendre les gens dire « Bon, on se met sur la voie de la protection de la faillite, on va faire des restructurations et on va continuer. » Mais dans le cas du Château, c'est liquidation, donc c'est vraiment fini. Et je pense que c'est pas c'est peut-être une des premières bannières qui est dit aussi clairement, mais c'est sûrement pas la dernière parce que point de vue économiquement, magasiner de ces jours-ci, aller en magasin, c'est pas, on vous dit restez chez vous, en même temps, ben, achetez-vous de la guenille. On a des gens qui sont pas habitués d'acheter en ligne non plus. Ça devient un peu, compliqué, puis il faut le dire, on a moins de besoins qu'on en avait.
Ben non, c'est sûr, on en a parlé, toi et moi, la semaine dernière, du fait que, tu sais, là, en plus, Justin Trudeau nous dit « Noël, ça va être plate, il n'y aura pas de party de Noël ». Alors, tu sais, tout ce qui fait que, bon, on s'habille pour aller travailler, on s'habille pour sortir au restaurant, on s'habille pour sortir aller au bar, dans des bars, on s'habille pour des fêtes de famille, on s'habille pour aller souper chez des amis, ben si tout ça n'existe plus, bon, on va tous vivre en pyjama. Et ce que je trouve aussi particulier, Jean, c'est que là, on apprend donc la fermeture du château et parallèlement, il y a une multinationale japonaise qui ouvre ses portes, un magasin de plusieurs étages, c'est Uniqlo.
Énorme.
Qui ouvre à Montréal. Écoute, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les petits commerçants montréalais, là.
Non, mais tu sais, ça, c'est un peu l'image des dernières années, là, avec les arrivées. Même, je l'ai déjà dit, j'adore aller magasiner chez Zara, chez H&M,
ouais.
Mais ces gros-là viennent tuer notre marché et les bannières québécoises, il en reste de moins en moins. Et des bannières québécoises qui vont bien, il en reste presque pas, ou il en reste pas, parce que ces gros géants-là viennent tuer le marché avec des prix. Comment tu veux, Sophie? Uniqlo, dans son cas, puis c'est un magasin qui est magnifique, je suis allé à la préouverture, c'est grand, c'est énorme. Je me dis, my God, comment ils vont faire pour vendre tout ça avec l'état de la rue Sainte-Catherine où c'est un chantier de construction comme si la guerre, comme s'il y a une bombe qui venait de sauter. Mais ce sont des beaux vêtements. Mais comment voulez-vous qu'un manufacturier québécois arrive égal? Tu sais, quand nous, on en fait peut-être 1000 morceaux d'un style, c'est beaucoup. Mais eux, ils fabriquent peut-être 50 000 par morceau, par couleur. Donc, les prix, là... Et quand tu arrives sur la chaîne de production en Chine, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, avec ce que le gouvernement a fait dans les années 80, toute la production est rendue en Chine. Il n'y a rien ou peu qu'on peut faire ici. On essaye, là, mais c'est vraiment, vraiment difficile. Tandis que eux, on leur usine là-bas, ben, ils sont gros, donc ils pensent avant tout le monde au niveau des chaînes de production. Et on ne sait pas, nous, ici, là, au Canada, mais présentement, la guerre est poignée là, entre la Chine, le Bangladesh, en Inde, tout ce qui est fait en Inde puis en Bangladesh. L'état de la COVID va tellement mal qu'on a tout envoyé du côté de la Chine. Du côté de la Chine, il y a le Chinese New Year qui s'en vient. Ça, c'est comme leur fête.
Ah, c'est vrai.
Le temps des fêtes.
Un nouvel an chinois, ouais.
Pour la production, c'est l'enfer parce que toutes les usines arrêtent pendant un mois. Donc, c'est le branle-bas de combat et, tu sais, des vêtements, des fois, on pense que ça se fait comme une recette de biscuits. Mais my God, que c'est plus difficile que ça. Et je pense que c'est pour ça que le château, à un moment donné, ben ils se sont dit, regardez, il y a plus de marché, il y a plus rien à faire, c'est trop difficile. Et on oublie ça.
Oui, on met la clé dans la porte. En même temps, bon, ils avaient d'autres problèmes financiers quand même depuis 2 ans qui n'étaient pas du tout reliés à la COVID. Mais disons que la COVID a été le dernier clou dans leur cercueil. Ouais, ouais, c'est ça. Où j'allais dire le dernier clou dans leur veste en cuir clouté, parce que au début, je m'en souviens, c'était un petit peu ça aussi, des affaires comme ça qu'on allait acheter au château. Ouais. Mais je veux revenir sur le centre-ville de Montréal, Jean, parce que moi, je me trouve partagée. Parce que d'un côté, je me dis, écoute, le centre-ville de Montréal est en train de mourir de sa belle mort. Quand on se promène là, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. Évidemment, les restaurants sont fermés, ou alors c'est juste des plats pour emporter. Il y a comme tout ce qui fait, évidemment, les gens qui travaillent dans les tours à bureaux, ils sont plus là, ils sont là, il y a 25% du monde qui est là. Donc, puis en plus, les travaux et tout le reste. Donc, je comprends, tu sais, Valérie Plante qui a fait une déclaration à propos d'Uniqlo, justement, en disant, ben, ça, c'est la preuve que oui, on peut faire revivre le centre-ville, etc. Elle a pas tort. Aussi, le fait que, tu sais, il y a plein de gens, je vois plein de photos des gens qui font la file pendant des heures pour rentrer chez Uniqlo. Je me dis, bon, c'est sûr que ça me fait de la peine pour les autres commerçants montréalais ou québécois, mais en même temps, ça va peut-être être l'affaire qui va faire donner un petit peu de survie au centre-ville.
Mais tu sais, on s'en reparlera dans 6 mois, là, s'il y a encore une file à l'extérieur, si Gap a réussi à passer à travers parce que Uniqlo est arrivé, parce qu'il y a des compétitions dans tout ça.
On
s'appellera la journée que Planet Hollywood a ouvert aussi sur la rue Sainte-Catherine. Toutes les grandes vedettes d'Hollywood étaient là, mais 6 mois après, c'était plus là. Quand Target a ouvert aussi, c'était la fin du monde, mais pourtant, en moins d'un an, tout est reparti également. Donc, faut pas prendre ça comme acquis.
Très
Uniqlo,
intéressant.
Oui, c'est connu des gens qui voyagent à l'international, mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, je veux dire, Uniqlo, ils savent pas c'est quoi, là. Puis, je veux dire, par les collections, oui, c'est des basics. On va pas là pour, comme on allait dans le temps au château, pour la nouveauté puis le côté plus fashion. On va là pour des vêtements basics. Ils sont peut-être chanceux parce que c'est peut-être dans cette ère-là qu'on est maintenant avec la COVID puis tout ça. Mais j'ai hâte de voir, moi, dans 1 an, 2 ans, et si les rues restent comme elles sont présentement au centre-ville, il n'y a pas rien qui va vivre là. Moi, je suis allé là parce que j'avais un shooting photo. Je devais aller magasiner, puis j'allais à l'ouverture du magasin. Je me suis dit, plus jamais que je retourne là dans les prochains mois.
Ça n'a
aucun bon sens. Ah!
Pourquoi?
De tous les côtés. En face de chez l'abbé, la rue Union, la rue Sainte-Catherine, dans le coin de Burgs et tout ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas stationner. Même si Valérie Plante dit que les parcs-mètres vont être gratuits, premièrement, il faut avoir accès à la rue pour avoir un parcomètre. C'est l'enfer. On s'en va au 10-30. Déjà, au 10-30, c'est beaucoup mieux. J'aime mieux passer le pont, prendre le trafic, m'en aller de l'autre côté, parce que le centre-ville, on n'aide pas du tout, du tout. Et moi, je pense que le poumon d'une ville, c'est ses commerces qui sont locaux. Donc, d'avoir un designer qui est de Montréal, d'avoir une compagnie qui est de Montréal, c'est pas d'avoir toutes des boutiques qui sont d'ailleurs, parce que de un, là, c'est sûr qu'on a moins de touristes. Mais quand on est touriste, on cherche des choses qui viennent d'ici. Parce que les chaînes, là, moi, je le sais, parce que je les faisais, les grandes villes. Quand je m'en allais à Londres, je n'allais pas magasiner chez Zara, je venais à Montréal.
Mais oui, c'est ça.
Ça prend quelque chose pour personnaliser un peu, aider peut-être plus l'économie locale, un peu plus que ça.
Mais en même temps, je te dirais, puis tu l'as dit tout à l'heure, c'est que en effet, la raison pour laquelle les gens tripent sur Uniqlo, c'est parce qu'ils sont allés à New York puis il y avait une boutique Uniqlo, parce que ils aiment Inès de la Fressange et que Inès de la Fressange fait des collaborations avec Uniqlo puis elle est même comme leur ambassadrice puis tout ça. Donc, c'est parce que t'as voyagé puis t'as vu des Uniqlo ailleurs puis là tu dis oh my God, ils arrivent à Montréal, fait que là t'es bien énervé puis tu t'en vas acheter des des vêtements là. Écoute, on a parlé du Niclos, on a parlé du château. Je veux absolument qu'on parle de Céline Dion parce qu'elle a décroché un rôle au cinéma.
Ben oui.
Et écoute, Céline, ça fait des années qu'elle dit qu'elle veut faire un film. Bon, elle avait déjà fait un film ici au Québec, mais bon, ça avait pas voyagé là. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben moi, je trouve ça super parce que ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle veut faire du cinéma, puis je me dis pourquoi pas pour elle. Elle a besoin d'un nouveau défi aussi. Je me rappelle des Fleurs sous la neige. Moi, j'avais trouvé qu'elle était bonne. Alors, moi, j'avais pas de bon souvenir, mais il me semble qu'elle était très bonne. Puis je pense que Céline a déjà le côté acting de toute façon. Elle est capable de rentrer dans des personnages. Tu sais, on la voit en entrevue en France où elle dit « J'habite au Georges V », puis elle arrive à Montréal, puis « Oui, mon champion ». Elle est capable de transférer dans un personnage. Et je pense que ça peut être une belle façon à son âge, à 52 ans, de faire quelque chose de nouveau. Et je suis sûr qu'elle va être bonne.
Ouais, moi aussi. Puis écoute, c'est vraiment un rêve. Écoute, le nombre de fois où j'ai parlé avec René Angélil, je me permets ici de faire un petit peu de name dropping, comme on dit en chinois, parce que j'ai interviewé Céline à 7 reprises quand même pour le magazine 7 jours. Et le nombre de fois où j'avais eu des discussions avec Monsieur Angélil au sujet des ambitions cinématographiques de Céline, c'est vraiment. Ben, j'ai très hâte de voir ça. Et écoute, surtout que maintenant il y a un film sur Céline. Oui, tu sais, ça qui soit à sa mesure. Écoute, merci beaucoup Jean Héroldi. À mercredi prochain, parce que nous, le mercredi, c'est Héroldi.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, on va continuer de parler de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, cette professeure qui a été suspendue pour avoir utilisé en classe un mot qui commence par un N. Vous vous souvenez que dans les jours qui ont suivi, il y a 34 signataires qui ont signé une lettre en faveur de la liberté universitaire à l'Université d'Ottawa. Mon prochain invité, Charles Leblanc, ben il est professeur titulaire en philosophie et traduction à l'Université d'Ottawa. Il est un des 34 signataires de cette lettre, mais la raison pour laquelle on voulait lui parler aujourd'hui, c'est que dans les jours qui ont suivi la signature de la lettre, ça a été toute une montagne russe, la réaction est peut-être pas celle à laquelle il s'attendait. Charles Leblanc est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Leblanc, comment allez-vous?
Comme vous ne le voyez pas, on n'a pas encore procédé à ma décollation, donc j'imagine que je vais plutôt bien. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer à votre micro.
Voilà, parce que sur Twitter, vous avez, au cours des dernières heures, donc, expliqué ce qui s'est passé pour vous en classe à l'Université d'Ottawa. Alors, je vous laisse le raconter à nos auditeurs pour que tout le monde comprenne la situation que vous vivez en ce moment.
Oui. Alors, le contexte, c'est que, vous savez, vous l'avez dit, je suis signataire de cette lettre. Notre objectif, c'était pas de tomber dans un débat sémantique. D'ailleurs, Gérald Bouchard en parle ce matin dans Le Devoir. C'est pas une question de mots, c'est une question de liberté de penser, et liberté de dire aussi. Donc, le contexte, c'est que maintenant que l'enseignement est en ligne, il existe des salles de clavardage où les étudiants se réunissent et peuvent parler du cours. Et mes assistants, parce que j'enseigne à des classes très nombreuses, hein, j'ai 422 inscrits ce matin, m'avaient informé que, en quelque sorte, une fronde se préparait, puisqu'on avait vu que j'étais l'un des 34 signataires de cette lettre. On m'a demandé si j'allais donner cours ou si j'allais en parler. Donc, un homme averti en voulant deux, en valant deux, je me suis préparé. Et j'ai simplement énoncé les différents points pour expliquer ma prise de position publique. En plus, mon cours s'appelle « Pensée et raisonnement critique », donc je n'avais pas l'impression d'être hors sujet, pour ainsi dire.
Ouais.
Je dirais que le nœud de la chose, c'est que j'essayais de montrer à mes étudiants que les mots sont les outils de la pensée. Et que grâce aux mots, on réussit à construire les connaissances et à dire le réel. Mm-hmm. Et en disqualifiant les mots, en les éliminant, on s'empêche non seulement de comprendre le monde, mais en plus de le dire et d'avoir une prise sur celui-ci. Bon, jusque là, les choses semblaient aller correctement. Mm-hmm. Et j'ai souligné que quand j'étais jeune étudiant en Allemagne, J'avais déjà suivi un cours où on parlait du nazisme et de l'antisémitisme. On étudiait la rhétorique antisémite et j'avais des confrères d'université qui étaient juifs. Et tout ça s'était fait sans que personne ne déchire sa chemise, sans qu'on en appelle au rectorat, sans que l'enseignement arrête. Au contraire, en ayant fait cette analyse-là, on est tous sortis de là plus instruits et, j'ose le prétendre, un peu plus intelligents.
Sauf que vos étudiants n'ont pas apprécié que vous fassiez ce parallèle-là entre la situation à l'Université d'Ottawa, l'utilisation du mot qui commence par un N, et l'Holocauste. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, vos étudiants, quand vous avez fait ce parallèle-là?
Eh bien, l'étudiante qui était la plus militante, puisque c'est toujours la même chose, il y a toujours quelqu'un d'un peu plus militant. Mais ça, c'est correct. J'enseigne depuis longtemps. Je suis habitué à ça. C'est correct qu'on s'exprime. Elle m'a dit que je ne pouvais comparer la souffrance des Noirs et celle des Juifs. Les Juifs n'ayant jamais souffert que 3 ou 4 ans pendant la dernière guerre. Bon, écoutez, vous savez, c'est en soi assez troublant. Mais d'un autre côté, on met ça sur le compte de la jeunesse. Puis au fond, elle est là pour s'instruire, donc on essaie d'être indulgent. Alors, je lui ai simplement rappelé qu'elle se trompait d'à peine 2000 ans, mais au fond, peut-être que c'est un petit calcul face à l'immensité du temps. Mais en tout cas, c'est quand même pas exactement juste et qu'on ne devait pas sortir une règle pour mesurer qui a souffert le plus dans l'histoire, disant en gros que pour les humanistes, chaque larme a le même poids. Chaque larme compte.
C'est bien dit. Oui, exactement. Puis on n'est pas là pour, en effet, comme vous dites, il n'y a pas de règle à mesurer pour dire la souffrance de l'un est plus importante ou plus grave.
On n'ira pas par là. Vous voyez bien que c'est une impasse, c'est une aporie sans solution. Donc on ne va pas là. Ensuite, je soulignais parce que quand j'étais étudiant de cégep, et pourquoi, entre parenthèses, je parlais de mon temps à l'université quand j'étais étudiant de cégep, c'est que, vous savez, on doit se mettre à la portée des étudiants. Là, moi, j'ai 55 ans, ils en ont 20, je suis un vieux monsieur. Je veux essayer de leur montrer aussi que j'ai été à leur place. Moi aussi, j'ai été jeune, moi aussi, j'ai étudié. Donc, j'ai évoqué des souvenirs de mon temps d'étudiant. Puis j'ai suivi au cégep Garneau un cours qui s'intitulait « Race et racisme », qui nous montrait que entre celui qui est noir ébène et le viking, le roux, il y a toute une palette de couleurs et c'est très difficile, même biologiquement, de déterminer où commence le noir et où finit le blanc. Parce que, et c'est ça la chose que je voulais exprimer à mes étudiants, nous avons une humanité commune. L'humanité est une, ce ne sont jamais que des différences, des nuances de couleurs.
Ça n'a pas passé non plus. Cette comparaison que vous avez faite en disant que pourquoi moi je serais pas noir, parce que c'est ça que vous avez dit.
Ah ben oui, c'est parce que ce que je voulais ensuite leur montrer, c'était que être noir, mais aussi être blanc, c'est pas simplement participer d'une couleur de peau, mais c'est aussi une culture, c'est un être au monde. Et que si face à nos différences de couleur de peau, alors c'est certain que je suis pas noir, c'est sûr que l'étudiante qui me parlait n'était pas blanche, ça nous sépare. Mais si on essaie de penser nos rapports sociaux, nos rapports intellectuels, notre vie en commun, non pas à partir de cette différence qu'on ne pourra jamais combler, mais à partir de la culture qu'on peut partager et qui permet une hybridité certaine, là, on reconnaît cette humanité commune, puis on va finir par s'entendre.
Donc, c'est un message rassembleur, M. Leblanc.
Là, je disais, pourquoi, dans ce cas, je ne serais pas noir, moi aussi? Voilà.
Ça a dérapé parce que... Il y a un extrait vidéo, je me permets juste de compléter, je veux pas vous interrompre, mais je me permets juste de compléter. Donc, évidemment, comme c'est un cours en ligne, il y a des étudiants qui ont copié l'extrait vidéo simplement où vous dites « Pourquoi ne serais-je pas noir? » Ils l'ont mis en ligne et là, vous écrivez sur Twitter « Le tam-tam de la haine commence ». Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Monsieur Leblanc?
Mais d'abord, dans le clavardage alternatif à mon cours, les étudiants avaient constitué un clavardage sur WhatsApp. Pendant tout le temps où je parlais, là, les gens écrivaient des choses horribles sur... En un petit groupe, hein, écrivaient des choses horribles sur mon compte, et on voyait très bien que ils n'attendaient que je prononce le mot du jour pour essayer de m'attaquer, ce que je n'ai jamais fait. Je n'avais pas l'intention de le faire non plus. J'ai pas d'intention diffamatoire ou dilatoire du tout. Donc, voilà. Et puis, ils ont été très, très violents à mon égard. Il est certain que ce qu'ils voulaient, c'était essayer de me faire trébucher, ce qui n'est pas arrivé, et qu'ils étaient prêts à tout pour essayer de créer une histoire, de monter une affaire. Donc, ils ont pris un extrait d'une dizaine, 10-15 secondes, que l'étudiante militante en question a placé sur son fil Twitter. Et de là, ben vous êtes une habituée, votre époux aussi, de toutes ces choses. Donc, je me suis retrouvé livré à la vindicte du tribunal Twitter. Et voilà, ça a été retweeté des centaines et des centaines de fois. On a des milliers de commentaires. On en a appelé... au retrait de mes publications. C'est quand même assez drôle, puisque je suis quand même l'auteur d'une vingaine d'ouvrages traduits dans 5 langues. Ça va être long. Moi, je leur dis, préparez-vous, ça va être long. Il y en a jusqu'en Corée. Je ne sais pas s'ils vont vouloir vous faire rentrer avec la COVID, mais en tout cas. Et me retirer mon doctorat. Donc, moi, excuse, mais ça me fait penser à 1933.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1933? Pour ceux qui n'ont pas de souvenirs, là, pour remettre les choses en perspective.
En 1933, on appelle pour les dissidents ou pour les professeurs juifs, on les chasse de l'université, puis on fait des autodafés. On brûle les livres à partir de ce moment-là. Donc là, finalement, quand on demande publiquement de retirer mes publications, ce que je trouve très drôle, et puis de m'enlever mon doctorat, donc moi, ça me fait rire encore plus parce que vous imaginez la chose. On fait une décollation des grades. C'est génial. Alors, on se présente, puis tous les professeurs qui sont pas dignes, là, on leur enlève le mortier, on leur enlève l'étole. Ouais. C'est grotesque, c'est du grand guignol, cette affaire-là.
Mais en même temps, Monsieur Leblanc, vous utilisez l'ironie, vous utilisez le sarcasme, vous utilisez l'humour, mais la réalité est très grave. La réalité, c'est que des étudiants menacent en fait votre poste universitaire pour des propos qu'ils ont en fait déformés. Et à ce jour, moi, je regarde le résumé que vous nous faites de ce que vous avez dit en classe. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, là.
Non, mais je sais qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ça c'est définitif. Mais vous savez, je pense qu'on est devant un monstre qu'on ne peut pas arrêter, hélas.
C'est quoi ce monstre?
C'est probablement une idéologie qui est délétère et qui ne va pas dans le sens de la libre pensée, du débat d'opinion serein. J'aurais pu dire n'importe quoi. Hein, je termine le tweet avec ce mot de Paul Valéry. « Quoi que tu dises, ma négation est prête, car c'est toi que je nie. » Donc, il n'y a rien à faire. J'aurais pu dire n'importe quoi. Nous avons toujours tort. Donc, et pour moi, toute cette chose-là, je n'en fais pas un débat sur le racisme. Pour moi, c'est un débat d'abord sur la liberté de penser, parce que j'ai besoin des mots pour réfléchir, et alternativement aussi la liberté de parole qui suit la liberté de penser. Parce qu'on imagine, dans un monde idéal, que la liberté de parole s'appuie sur l'exercice libre de la pensée. On espère que ça soit vrai. Mais si tout le monde qui parle pensait avant de parler, le monde irait mieux. C'est pas toujours placé, c'est pas toujours dans le monde pratique. Ce que je crains, moi, Madame Durocher, c'est qu'elle...
Oui, allez-y.
Ce qui va se passer, c'est que les actes de libre pensée à l'université ne se résument, au fond, qu'à un point d'exclamation dans une note de Lisa Goguet de Porphyre. Ça sera pas bien méchant, ça sera tout caché, et on ne pourra plus faire notre travail qui est d'analyse, de rigueur, de compréhension.
Parce que
ça, je trouve que c'est préoccupant.
Oui. Alors, vous nous avez envoyé à Hugo Veilleux, qui recherchait à l'émission il y a moi, des captures d'écran de certains des propos des étudiants qui clavardaient à votre sujet. Écoutez, c'est très violent. On s'en prend à vous. On dit que vous êtes stupide, un idiot. Est-ce que quelqu'un peut se débarrasser de lui? Le langage est très violent. Et c'est assez particulier parce que ces mêmes personnes dénoncent le fait que quand on prononce certains mots, ce sont des micro-agressions. Donc c'est quand même assez particulier parce que...
Oui, on n'en est pas un paradoxe près, en effet.
C'est particulier parce que...
On n'en est pas un paradoxe près parce que ces micro-agressions, vous voyez, on dénonce les micro-agressions, vous avez lu, vous voyez que je n'invente rien... Vous
non.
avez vu comment on s'exprime là-dedans dans une violence inouïe. En effet, on demande à quelqu'un. Il y a une étudiante à un moment donné qui demande est-ce que quelqu'un peut nous débarrasser de lui? Et ça, c'est quoi ça? Pour moi, c'est une macro-agression quand même. Je crois avoir toutes les cartes en main pour demander l'expulsion de ces étudiants de mon cours.
Est-ce que vous allez le faire?
Eh bien, c'est ce que je tente de faire, mais puisqu'on est en quelque sorte au Dunkin' Donuts chez nous, c'est le client a toujours raison. Donc là, pour l'instant, il semble que je doive continuer à faire court avec ces gens-là. Donc c'est en soi un peu difficile. Ça soulève un autre problème.
Allez-y.
C'est le problème de l'enseignement en ligne, parce que c'est un peu tout ça qui est derrière la chose. Madame Lieutenant Duval, il y a tout lieu de croire que si elle avait donné son cours dans une salle, elle aurait été parfaitement capable, parce qu'elle est intelligente, de jauger la salle, de jauger son groupe, de voir subjectivement l'émotion et ce qui se tramait là, et reprendre la situation à ce niveau-là. Ce qu'on ne peut pas faire avec des interfaces comme Zoom, Teams et autres. Ça,
voilà.
C'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que il n'y a plus aucun de mes confrères, quel qu'il soit maintenant, qui peut dormir sur ses deux oreilles. Parce que quiconque peut prendre un extrait de son cours, en le découper, le décontextualiser, l'envoyer sur les médias sociaux, et là, c'est la spin pendant 10 jours. Où il a l'air d'un innocent. Bon, moi, je vous donne raison. C'est drôle de voir un vieux monsieur comme moi, blanc, qui dit « Pourquoi je ne pourrais pas être noir? » Je trouve ça drôle moi-même aussi. C'est certain que c'est... En plus, je m'appelle Leblanc. Vous imaginez comment la chose est loufoque. Moi, je suis le premier à trouver ça rigolo. Sauf que il faut que ça soit contextualisé. Mon but n'est pas de provoquer. Je vous ai expliqué mon point de vue. Vous voyez dans quel contexte c'était. Bref. Les collègues qui donnent des cours en ligne maintenant sont des cibles. Et l'université n'a pas la possibilité de nous donner l'assurance que ça n'arrivera pas. Parce que si vous lisez les captations sur le blog, là, sur le clavardage, vous voyez très bien qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a enregistré sur son téléphone cellulaire. Parce qu'à 11h le soir, lorsque j'ai vu qu'un extrait de mon cours était en ligne, j'ai évidemment éliminé l'enregistrement de mon cours, parce que là, je ne voulais pas qu'on commence à découper l'ensemble de mon cours.
Absolument.
Pour alimenter le...
Mais c'était trop tard.
La bête. Ah ben, c'était trop tard.
Parce
que
c'était
trop
tard.
De toute façon, quelqu'un le filmait, à mon avis, de façon illégale avec son téléphone.
Bon, alors, vous nous dites, il n'y a aucun de mes collègues qui peut dormir sur ses deux oreilles.
Je ne vois pas comment.
Est-ce que ça vous fait peur, parce que, bon, la professeure lieutenant Duval a été suspendue pendant deux semaines. Est-ce que vous pensez que l'Université d'Ottawa va aller jusqu'à prendre des mesures à votre égard?
Non. Moi, l'Université d'Ottawa a montré qu'elle était très prompte à agir quand il s'agissait du corps professoral. Mais quand il s'agit du corps professoral, les choses vont plus lentement. Moi, j'ai informé mon doyen de la situation dès vendredi.
Oui.
Nous sommes aujourd'hui mercredi. Il y a toujours rien de fait. La vidéo tourne.
Incroyable.
Est-ce
que vous sentez un petit peu
rien?
Abandonné par votre université?
Non, quand on est seul, on ne se sent jamais abandonné. Donc, n'ayant jamais été accompagné, nul ne m'a abandonné, vous savez.
Monsieur Leblanc, on va vous souhaiter bon courage pour la suite des choses, mais je vous trouve justement très courageux d'avoir dénoncé sur les médias sociaux cette campagne d'intimidation à votre égard. Puis écoutez, quand même, quand on donne un cours sur l'esprit critique, ce serait bien que les étudiants en prennent bonne note. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, et j'aimerais beaucoup que vous nous donniez des nouvelles à Cube de la façon dont ce dossier là se développe, parce qu'on ne veut pas avoir une deuxième affaire lieutenant Duval à l'Université d'Ottawa. Non, ce serait inacceptable.
Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler, mais j'aimerais aussi juste conclure.
Oui, allez-y.
Vous savez, le courage, là, ça ne peut pas se commander, mais la peur, elle peut se vaincre. Et c'est là-dessus qu'on doit agir. Voilà.
Merci. Et je retiens également ce que vous avez dit, c'est pas un débat sur le racisme, c'est un débat sur la liberté de penser. Merci beaucoup, Charles Leblanc, donc, qui est professeur titulaire en philosophie et traduction à l'Université d'Ottawa, un des 34 signataires en faveur de la liberté universitaire à l'Université d'Ottawa, qui est vraiment la cible d'une chasse aux sorcières à l'Université d'Ottawa de la part des étudiants qui ont enregistré un de ses cours et complètement cité hors contexte.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, vous le savez maintenant, le chanteur Éric Lapointe a obtenu une absolution et ça soulève énormément de questions. Il y a beaucoup de gens qui réagissent de façon tout à fait vraiment... il y a beaucoup de colère, je pense, face à cette décision. Pour comprendre les tenants et les aboutissants légaux de cette décision-là, on va en parler avec Maître François-David Bernier, qui est avocat, analyste judiciaire et animateur du super bon balado Avocat à la barre, que vous pouvez entendre les samedis et les dimanches à 11h à Cube Radio. Bonjour Maître Bernier.
Salut Sophie.
François-David, écoute, quand on apprend que quelqu'un comme ça obtient une absolution, quel genre de message ça envoie, aussi bien pour les victimes que la société?
C'est certain que j'avoue que le message n'est pas l'idéal. Bon, parce que c'est un dossier médiatisé. On parle de violence vis-à-vis des femmes, et là, on dit, bon, il y a une absolution. Pour les gens, une absolution, c'est comme s'il n'y avait rien fait. Mais tirez-moi pas des roches comme à l'habitude. Des explications.
OK.
Je vais expliquer ce qui est dur à expliquer. C'est sûr que sur l'image, ça paraît pas bien, mais quand même, il faut dire la réalité. Là, il y a de la
jurisprudence,
il y a des décisions qui encadrent tout ça. Puis l'absolution qui est soit inconditionnelle ou conditionnelle, comme dans son cas, qui est une année de probation, c'est quand même nécessaire dans le système. C'est là, il y a des critères, à savoir, bon, s'il n'y a pas de maximum, s'il n'y a pas 14 ans maximum d'emprisonnement, s'il n'y a pas une peine minimale, et là, si la personne n'a pas pas d'antécédent. Mm-hmm. Ce qu'on veut avec ça, c'est parce qu'il faut se rappeler qu'il est condamné, je veux dire, il est reconnu coupable, mais on veut pas que la peine soit disproportionnée à son geste, ce qui fait que on lui permet là, qu'il n'y ait pas ce casier judiciaire-là pendant bon 5 ans. Il l'a pendant 1 an parce que ça laisse des traces pendant 1 an. Et là, l'absolution, dans le fond, pour vulgariser, c'est pour faire que la personne, malgré qu'elle a commis une grosse erreur, puisse rester sa traque, puis elle a un intérêt véritable ou légitime,
voilà.
Dans le sens que si elle a un casier, sa vie déraille, donc la peine est plus grande que ce qu'il a fait. Puis dans matière d'agression comme ça, physique, je sais que c'est choquant, c'est vis-à-vis d'une femme, je suis contre ça, mais il y a quand même une gradation de gestes. Il y a des gestes qui sont plus violents que d'autres, et lui, on détermine que c'est moins grave que d'autres choses, des fois, qu'on voit dans ce genre de dossier-là.
Mais c'est pour ça que c'est important qu'on se parle, François David, parce que c'est facile pour les gens et qui ne connaissent pas la cause, les détails de la cause. T'sais, c'est pas nous qui avons fait l'enquête de police, là.
C'est ça.
Oui. Voilà, on n'est pas, nous, les procureurs de la couronne. Alors, c'est facile, monsieur, madame, tout le monde, assis à la maison, de dire « Ah, oh, ben, c'est écœurant, comment ça se fait qu'ils s'en tirent de cette façon-là, puis tout ça. Mm-hmm. » Mais on ne connaît pas les détails de la cause. Alors, la raison pour laquelle... Moi, j'essaie de comprendre la raison pour laquelle et la couronne et la défense en sont arrivés à ce résultat-là. Et je trouve très important quand tu dis, il faut pas que la peine soit disproportionnée par rapport à la faute. C'est sûr que, mais c'est important de le rappeler parce que si, c'est juste la balance des inconvénients, si tu veux. C'est que si, en effet, il l'avait battu, à mort, ben, c'est sûr qu'il y aurait pas eu une absolution conditionnelle. La peine peut pas être plus lourde que la faute qui a été commise. Nous, on regarde ça de l'extérieur pis on se dit la faute, elle est énorme parce qu'il l'a agressé. Oui, mais il y a différents, tu sais, il y a voie de fait simple, il y a voie de fait grave, tu sais, il y a toute une gradation. C'est pour ça que le système de justice met des gradations.
Ouais, en plein ça, il aurait pu lui donner des coups. On voit des cas beaucoup plus graves. Lui, il est déjà aussi, il avoue que c'est une erreur de parcours et qu'il voulait pas faire ça. C'est sûr que c'est pas justifié son état d'ébriété, mais parce qu'on c'est pas ça qui donne une absolution à cause qu'il est en état d'ébriété, parce que maintenant, pour des crimes contre la personne, tu peux pas te justifier disant que tu n'avais pas ta tête à cause de l'alcool. Tu es responsable quand tu bois. Donc, tu as raison. Et c'est faut éviter le bûcher public. Parce que les gens, ils aiment ça, dire « bon, ça n'a pas d'allure, puis c'est en deux dimensions, puis c'est ce qu'ils perçoivent en quelques instants, mais c'est ça, les procureurs qui sont au dossier, ils analysent tout ça, et c'est gradé là, selon, comme tu dis, la gravité. Puis l'absolution, on le voit beaucoup, les absolutions avec les jeunes aussi. Souvent, on dit on veut pas créer des criminels, parce que quand tu mets un casier à quelqu'un, quand tu fais que il pourra plus travailler comme il travaillait, ben tout le principe de réhabilitation puis de bon citoyen, mais tu viens de l'entacher. C'est pour ça qu'on dit, ben t'es coupable, mais on te donne une bonne tape sur les doigts, recommence jamais, et là on te donne une absolution. Dans son cas, on dit, ben tu dois voyager, tout ça, donc il y a plusieurs inconvénients graves à avoir ce casier-là s'il reconnaît sa faute. Et sachez par contre, pour rassurer tout le monde, que ça s'efface pas non plus, là. C'est que, quand on a eu une absolution, s'il recommençait, on pourrait ressortir
cet
événement-là. Et, être plus sévère par la suite, là. C'est comme
il serait considéré comme un récidiviste. S'il le faisait à nouveau, on recommencerait pas justement à zéro. Ce serait quand même 1+1. Ce serait pas 1+0, là.
C'est ça. On pourrait ressortir
cet important.
Antécédent-là. Parce qu'il est coupable. Tu sais, il y a d'autres modes où est-ce que les gens vont négocier avant de plaider coupable, où ils vont faire une déjudiciarisation. Mais là, dans son cas, il est quand même coupable. Mais la peine, on lui donne une chance pour pas qu'il y ait cette trace-là qui dure des années et des années. Comme je dis, une absolution conditionnelle, ça laisse des traces quand même un an de temps. Mettons, s'il voulait le job, il appliquerait, puis là, il pourrait voir qu'il y a eu des démêlés avec la justice. C'est ça le casier criminel. Mais ça fait face après un an sans faire de demande de pardon.
D'accord. Bon. Ouais. L'autre aspect que les gens ont beaucoup commenté dans cette histoire-là, c'est de dire, bon, ben, on le sait bien, la raison pour laquelle il a eu son absolution conditionnelle, c'est parce que c'est quelqu'un de connu. S'il avait été plombier, il n'aurait pas eu la même peine. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là, François-David?
Je vais répondre comme un ado, pas rapport, ça n'a pas rapport. Même, honnêtement, là, quand t'as un client comme ça qui est connu, là, tu marches encore plus sur des œufs parce que t'es l'intérêt, on n'est pas supposé être plus sévère parce qu'il est connu, mais quand même, t'as la crédibilité de la justice qui est encore plus sous la loupe. Même, tu sais, ce que le juge a fait, dans ce genre de dossier-là, le juge ne prend jamais 3 semaines, 1 mois avant de réfléchir s'il entérine ou pas la suggestion commune, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, mais il faut qu'il l'entérine, à moins que ce soit déraisonnable. Mais là, le juge s'est quand même dit, ouais, j'aime pas trop ça, et donner une absolution pour quand on parle d'un crime contre la personne, de violence envers les femmes. Il a quand même pensé, mais il a dû regarder toute la jurisprudence, il s'est dit que si je le donne pas, je vais être renversé en appel, ça sera pas voilà. Mieux. Il regardait la gravité du crime. Donc, le fait qu'il soit connu, ça l'a quasiment mis plus à risque, parce qu'un autre dossier du même genre, on va favoriser le bon fonctionnement de la justice, on va favoriser un plaidoyer de culpabilité, puis quand les parties s'entendent, c'est pas des deux de pique, les avocats non plus, là, ils ont évalué ça, la couronne, là, pour avoir travaillé avec eux, ils sont très pro-justice, puis ils sont pas du genre à laisser aller, puis à dire, ben, c'est pas grave ce qu'il a fait, là. Mais le système, quand même, puis de toute façon, Éric Lapointe, on se le cachera pas, on le dit dans beaucoup de dossiers, il a payé fois mille.
Bon, c'est là que je veux t'emmener.
La société, là.
Ben voilà, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, si on prend, mettons, Joe le plombier, qui fait exactement les mêmes gestes que Éric le chanteur, ben Joe le plombier, ça fera pas la une du Journal de Montréal, le fait qu'il ait posé les mêmes gestes. Donc, sa vie va pas dérailler de la même façon, puis je veux que ce soit être très clair pour les gens qui nous écoutent, je suis pas en train de m'apitoyer sur le sort d'Éric Lapointe, d'aucune façon, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais si on regarde ça objectivement, Joe le plombier, il va pas, les gens vont pas le reconnaître dans la rue en le traitant de batteur de femme, parce que Joe le plombier, il est incognito. À Éric Lapointe, sa face est partout. Personne au Québec n'a pas été au courant que Éric Lapointe avait posé ce geste-là contre cette femme-là. Donc, c'est ça la différence.
Oh, regarde, Sophie, je sais pas quoi dire là-dessus. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une révolution là-dessus. Je veux pas justifier ces personnes-là, mais une personnalité publique, qu'elle soit accusée, qu'elle soit condamnée, qu'elle soit faussement accusée, elle va payer le prix, un prix démesuré d'un geste. Puis là, je veux pas faire de mauvais parallèle entre Nathalie Normando et Éric Lapointe sur ce qui était fait. Dans le cas de Nathalie Normando, j'ai suivi le dossier et le juge a pris la peine de dire ces gens-là, là, dans la rue, là, sont aussi innocents, pas dans le mauvais sens, que n'importe qui. Puis il a même rappelé, il a dit, ces gens-là ont payé ce qu'ils ont eu comme peine est beaucoup plus grand que n'importe quelle sentence qu'ils auraient reçue s'ils avaient commis le crime, tu sais.
Ouais. C'est drôle que tu parles de ça parce que... Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai fait ma chronique de ce matin avec Pierre Nantel, tu sais, je suis avec lui tous les matins, mais j'ai exactement fait ce parallèle-là en disant, on ne peut pas faire le procès des gens sur la place publique. Parce que on le ferait pas pour Joe le plombier. Pourquoi on le fait pour Nathalie Normando, Éric Lapointe, Gilbert Rozon, Éric Salvaille, peu importe, non?
Je veux même dire, Nathalie Normando, désolé, moi, je suis un fervent défenseur de la présomption d'innocence. Elle, c'est terrible, là, parce que là, il y a plus de procédure, puis je veux dire, tu sais, dans le cas d'Éric Lapointe, je trouve que c'est démesuré, mais quand même, il est coupable d'un geste.
Voilà.
Je veux dire, quand même, le système déclaré coupable. Quelqu'un qui a un arrêt des procédures ou qui est accusé qu'on a retiré ça ou qui a été acquitté, lui, je trouve ça encore plus terrible parce que, puis quand j'entends des gens dire, ouais, il n'y avait pas assez de preuves, c'est pour ça que c'était le doute, le fardeau de preuves hors de tout doute raisonnable. Non! Si le système ne t'a pas reconnu coupable, t'es innocent. C'est dur combat parce que c'est les gens qui ne pensent pas comme ça.
Alors, tu vois, moi, je vais en arriver à une conclusion avec toi aujourd'hui, François-David. Je trouve que le travail que toi, tu fais, le travail que l'ex-juge Nicole Gibeault fait sur nos ondes, le travail qu'on fait tous comme journalistes, de vulgarisation de la chose juridique, d'améliorer la littératie juridique des Québécois, c'est un travail qui est essentiel. Et moi, je pense que dans les écoles, au cégep, à l'université, il devrait y avoir des cours, justement, tu sais, on a des cours d'éthique et de culture religieuse.
Oui.
Ben, des cours pour apprendre, des cours de droit, des cours pour apprendre à, aux citoyens comment ça se passe, notre système de justice, parce que les gens sont mal informés, les gens portent des jugements, c'est vraiment le cas de le dire, et je pense que le travail que toi tu fais et que d'autres font est un travail qui est essentiel, de remettre les pendules à l'heure et de rappeler des faits, c'est super important. Écoute, c'est toujours un plaisir de te parler.
Oui, merci.
Ça faisait longtemps, je m'ennuyais, je suis contente de te retrouver.
Moi aussi, n'importe quand, je suis disponible. C'est vrai que c'est important de comprendre.
OK, puis c'est écoutant. Important de t'écouter aussi la fin de semaine, samedi et dimanche, Avocat à la barre de, à 11h à Cube Radio. Évidemment, toujours disponible en balado. Maître François-David Bernier, donc, qui est avocat et analyste judiciaire. Vraiment une discussion passionnante.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
Alors, vous le savez, les 260 centres d'activité physique qui avaient interpellé lundi dernier le premier ministre François Legault, puis qui avaient dit qu'ils allaient ouvrir quand même jeudi, sont revenus sur leur décision. Ils vont plutôt appeler à une contestation santé. On va en parler avec Benoît Giroir, qui est lui-même propriétaire d'un centre d'activité physique. Bonjour, Monsieur Giroir.
Bon matin.
Écoutez, je suis un peu surprise de votre communiqué que vous avez émis. Je suis surprise du ton et du vocabulaire que vous utilisez. Vous dites, parce que le gouvernement a dit, bon, ben écoutez, nous, on n'hésitera pas à faire un décret spécial pour que les clients qui se pointeraient dans un centre d'activité physique soient aussi punis qu'il y a une amende. Vous, vous dites, le gouvernement s'attaque à notre clientèle et vous appelez ça une dérive autoritaire. C'est quoi ce vocabulaire-là, M. Giroir?
Ben, écoutez, je pense que le vrai visage de M. Legault là, se fait voir. Là. Tout le monde a reculé parce que c'était pas, justement, contrairement à ce qu'on pense, ils n'étaient pas en mesure de donner des contraventions à la clientèle. Et dès le départ, là, il faut se ramener au communiqué de départ. Les centres d'activité physique, ce qu'ils demandaient au gouvernement, c'est écoutez, nous, ce qu'on vous dit, démontrez-nous que nous sommes des zones d'éclosion véritables. On ne parle pas d'un cas par-ci, par-là. Là. Mm-hmm. On va se comparer à des Holly-Mel qui ont eu 80 cas, puis nos hôpitaux, puis nos écoles. Là. C'est pas ça. Alors, démontrez-nous que c'est le cas et nous allons reculer. Mais la réponse, le premier ministre la connaissait, il la savait. Nous ne sommes pas des cas d'éclosion. Donc, au lieu de tendre la main dans une discussion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même dit, entre choisir, vous savez, c'est pas facile, entre choisir entre la santé mentale des gens et le COVID. Ben, ce qu'on lui dit, mais attention, vous n'avez pas à choisir entre la santé mentale des gens et le COVID. Vous devez vous occuper des deux. Et nous, c'est notre travail. Donc,
oui, mais c'est parce que... Monsieur Giroir, quand vous dites une dérive autoritaire, le gouvernement a toujours ben juste dit on va faire respecter la loi. Vous pouvez pas, c'est parce que vous avez établi les termes du dialogue avec le gouvernement. Vous avez dit au gouvernement, nous on veut que vous nous prouviez X. Si vous nous prouvez pas X, on va faire de la désobéissance civile. Le gouvernement décide de pas répondre sur vos termes à vous. Puis vous appelez ça une dérive autoritaire. C'est un peu, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu de l'enflure verbale, là.
Ben écoutez, ben moi je le perçois pas comme ça. Les gens, la population, nous on a reçu beaucoup de médias qui nous disent ben qui se sentent attaqués. Tout le monde se sent attaqué par ce genre de discours-là parce que dans le fond, pour vrai, c'est autoritaire. Est-ce qu'on était obligé de se rendre jusque-là? Est-ce que puis la question, on recommence à la question préalable. Est-ce qu'on était obligé de fermer les gyms et les restaurants? Parce que les médecins qui nous contactent, qui nous disent ben que ça n'a pas d'incidence actuellement, que ce n'est pas là que sont les éclosions. Qu'est-ce que vous voulez que moi je réponde à ceux qui m'appellent pour me dire que dans deux mois, ils vont fermer, à ceux qui sont en détresse psychologique?
Plein qui vont fermer. Les théâtres aussi vont fermer. Les restaurants vont fermer. Il y a plein
gens... Alors voilà, la responsabilité du gouvernement était là. Ce n'était pas d'aller dans l'autorité, c'était plutôt d'être dire, ben écoutez, on va s'asseoir et on va discuter, puis on va trouver des moyens ensemble. lui, ce qu'il a préféré faire, c'est aller du côté de l'autorité. Je suis père de famille, je sais ce que c'est que l'autorité. Ça représente justement dire à mon garçon, ben là, t'écoutes pas, ben voici ce qui se passe. Alors, j'ai un choix comme parent, parfois, dans une situation. Est-ce que je prends le temps de discuter avec mon enfant ou est-ce que je prends juste d'user l'autorité? C'est ce qu'il a fait, c'est autoritaire.
Oui, mais c'est autoritaire, monsieur Girouard, je m'excuse, je vais revenir avec ça. Le gouvernement, son rôle, c'est d'appliquer la loi. C'était évident. C'était écrit dans le ciel que le gouvernement allait dire, ben oui, si les gyms sont ouverts de façon illégale, c'est sûr que les gens qui fréquentent les gyms de façon illégale allaient faire face à des mesures légales. Voyons donc, j'ai pas besoin de vous apprendre ça, monsieur Girouard.
Je suis pas d'accord du tout. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas d'appliquer la loi. Le rôle du gouvernement, c'est de gouverner. Et la gouvernance va beaucoup plus loin que les lois. La gouvernance, c'est celle aussi de la paix publique, la paix sociale. C'est aussi celle de la santé publique. La gouvernance, c'est aussi l'économie. Donc, et en termes de gouvernance actuellement, le gouvernement Legault l'échappe complètement. Parce que c'est pas que le secteur des gyms. Nous, est-ce que vous savez, dans les derniers jours, le nombre de restaurateurs qui nous ont contactés? Et de d'autres commerces, là, aussi de la santé, aussi du milieu des arts qui nous ont contactés, qui nous disent, on vous encourage, nous on serait pas capable, nous on est bloqué, nous on peut pas, nous on a peur aussi d'agir. Donc actuellement, ben oui, on a forcé la main du gouvernement, le gouvernement a réagi, il avait un choix à poser. Est-ce que c'était le choix d'un bon gouvernant? Moi je donne l'image d'un bon père de famille, ben, parce que c'est un homme qu'on a actuellement, ça pourrait être celui d'une mère de famille. On a des choix à faire. Ils ont choisi une visée autoritaire, alors qu'ils doivent calmer le jeu. La population, elle est anxieuse. Les chiffres, je suis sûr que vous les avez vus des derniers jours. Hein? Tel jeune, 30%. Les psychologues, ça augmente également. Il y a une tension sociale qui est inhérente, et c'est dans le ton. Hey, écoutez, je suis en train de trouver que Doug Ford est plus calme, et plus posé, et plus rassurant que le premier ministre Legault. Donc, non, on n'exagère pas. C'est une dérive autoritaire. Il avait le choix de tendre la main à une partie, parce que, écoutez, ce n'est pas que des commerces, on est tous des pères et des mères de famille, des gens de la société. Il aurait pu faire ce choix-là, il l'a refusé, il l'a écarté, il a même dit qu'il faisait le choix entre la santé mentale et le COVID. Ben écoutez, moi je pense que ce que les partis politiques actuellement, là, j'ai écouté Gabriel Nadeau-Dubois, j'ai écouté Mme Anglade, on le voit actuellement, M. Bérubé, M. Plamondon, il se fait questionner, il ne sort pas les chiffres. Il continue à dire que tout est bien, tout va bien, parce qu'il se sent évidemment en selle, mais non, il ne voit pas l'angle mort qu'on représente.
D'accord. Mais Monsieur Girouard, je pense tout à fait que c'est tout à fait légitime de questionner les mesures gouvernementales, de questionner les décisions. Mais ce à quoi vous avez appelé lundi, c'est en disant on va ouvrir jeudi. Est-ce que vous pouvez reconnaître avec moi que ça s'appelle de la désobéissance civile?
Ben, on peut appeler ça comme ça. Moi, je suis leur conseiller, OK? Ils nous ont appelés chez les entrepreneurs en action du Québec. C'est eux qui sont venus me demander conseil sur des choses. Et moi, je leur ai déconseillé initialement d'aller vers ça.
D'accord.
Ensuite, je leur ai dit, par contre, moralement, je suis incapable de dire à un entrepreneur au bord de la faillite ce qu'il doit faire de façon obligatoire. Moi, je vais pas l'empêcher, parce que c'est un peu ça où est-ce qu'on se retrouve actuellement. La situation dans laquelle on se trouve de crise, parce que ça en est une, ben, elle a été suscitée par un ensemble de décisions depuis 7 mois. Elle a été menée par le ministre Fitzgibbon qui, comme seul programme, propose d'abord et avant tout des prêts aux entreprises, alors qu'elles sont endettées du premier confinement. Donc, tout ça là, nous mène vers la désobéissance civile, peut-être, mais peut-être aussi qu'il y avait d'autres façons d'aller ailleurs. Fait qu'avant d'accuser un entrepreneur qui est sur le bord de la faillite, qui vit son divorce, qui a des difficultés dans sa famille, parce que moi, ce que je vous témoigne dans un très court laps de temps, on se parle pas longtemps, c'est ce que j'entends tous les jours. Donc, la part d'entreprise. J'ai quelqu'un hier qui m'a parlé que 2 de ses amis entrepreneurs s'étaient suicidés. On en revient à ça parce que le ministère ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise à quelqu'un? Non, reste chez toi et regarde ton entreprise mourir. Ben non, alors ils réagissent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se surprend de ça? Qui va lancer la première pierre? Vous? Moi? Moi, je suis incapable. Moi, je suis incapable de lancer une roche à quelqu'un qui voit 20 ans, 30 ans, 40 ans de sa vie disparaître parce qu'il n'a pas de soutien, parce qu'il est poussé dans ses retranchements. J'ai été incapable et je leur ai dit, ceux qui voudront le faire, moi, je vous appuierai parce que moi, je suis incapable d'aller jusque-là.
Est-ce que vous avez lu Mario Dumont? Oui. Est-ce que vous avez lu Mario Dumont ce matin?
Non,
parce que en tout cas, en gros, pour résumer en 30 secondes une chronique de 540 mots, ce qu'il dit, c'est, ben, ces mesures-là, on n'a peut-être pas le choix, c'est-à-dire que il faut pas comparer, oui, il y a de la détresse psychologique puis tout ça, oui, il y a des dépressions, oui, il y a des faillites, mais qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas les mesures sanitaires? Donc, il faut pas comparer, la situation actuelle de dépression ou de détresse à une période où économiquement ça allait bien. Il faut comparer avec ce qu'on vit dans d'autres pays, parce que cette détresse-là, elle est partout. Parce que il faut pas être fâché contre le gouvernement, il faut être fâché contre la COVID. C'est la COVID qui est responsable de tout ça.
Attendez. Là, moi, quand tout le monde on a le goût de déménager en Suède ou dans plusieurs États américains, c'est parce qu'on a un problème. Non, c'est pas vrai.
Vous avez le goût de déménager aux États-Unis, vous, M. Girouard?
Il y a certains États que ça va très bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et puis on va ramener le cas de la Suède qui continue à bien se comporter. Mais au-delà de tout ça, il faut pas opposer l'un et l'autre. Un bon premier ministre, un vrai chef d'État serait en mesure de s'occuper à la fois de ces points-là. Je vous donne un exemple tout simple. Pourquoi ne pas avoir mis en place, dès le départ, des programmes qui auraient couvert l'ensemble des pertes des industries? Oui, ça nous aurait endettés collectivement. C'est le choix qu'a fait le gouvernement Trudeau. Mais c'est parce que là, il faut qu'on se quitte. Bon, mais on n'est pas dans une mesure assez ordinaire, là. C'est quelque chose de spécial, mais on est capable, un bon chef d'État, de couvrir les deux secteurs et même tous les autres. Mais là, il n'y a pas de choix à faire. Il faut s'occuper de tout le monde.
Bon, Benoît Girouard, merci beaucoup. Puis j'invite les gens quand même à aller consulter le communiqué que vous avez émis. Bon, on continuera pas à chicaner là-dessus sur le vocabulaire, mais merci quand même d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Donc, vous êtes vous-même propriétaire d'un centre d'activité physique et surtout, vous avez mis sur pied sur Internet cet espace où des entrepreneurs dans tous les domaines peuvent venir s'exprimer et exprimer la détresse qu'ils vivent dans cette période difficile. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je remercie Sébastien Laperrière à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et on se retrouve demain.
Cube Radio.